part, la motion de censure contre le gouvernement Matata Ponyo a été rejetée à la plénière d'hier suite au retrait de 42 signatures par certains députés. Ils ont justifié ce désistement soit par convenance personnelle, soit par l'inopportunité de la motion. D'autres par contre fustigent ce désistement qui, selon eux, ne respecte pas la loi en la matière. L'auteur de la motion reprochait au Premier ministre notamment de violer constamment la Constitution et la mauvaise gestion des finances publiques. Comment analyser cette situation? Pour en parler, nous recevons Maître Jean-Baudouin Maillot, député national de l'opposition et porte-parole du parti politique UNC. Il est l'auteur de la motion de censure contre le Premier ministre, Honorable Maillot. Bonsoir.
Bonsoir.
Honorable François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du parti politique PPRD. Honorable Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir Alain Irung.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Rafiki de Kindo Manyema, je suis content de ce que cette motion ait été rejetée puisque nos députés nous ont habitués à certaines motions qui ne visent pas toujours l'intérêt du peuple congolais. Kulekula Dokis Akikwito Bandundu, les retraits des signatures de nos députés démontrent leur incapacité à contrôler le gouvernement. Comment peut-on avancer si les gens gèrent le pays comme leur ferme? C'est une honte. Samuel Kachak, Kevin Koutegui-Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Julien Nyamouini est à la supervision. Willem Lungamba à la mise en onde. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La motion de censure contre le gouvernement Matata a été rejetée. C'est la conséquence du retrait de 42 signatures par quelques députés nationaux. Certains ont justifié ce désistement soit par convenance personnelle, soit par l'inopportunité de la motion. D'autres, par contre, fustigent ce désistement qui, selon eux, ne respecte pas la loi en la matière. Mimi Ngumba Mulongo.
Le gouvernement Matata Ponyo reste en place, la motion n'ayant pas abouti. Et pour cause, le retrait de 42 signatures par les députés ayant souscrit à cette motion, dont la plupart de la majorité. Retrait justifié par bon nombre des députés pour de convenances personnelles ou encore pour de convictions politiques. Une véritable déception constatée du côté de l'opposition qui condamne le désistement de ses signataires. Conséquence, au-delà de clivages traditionnels, cette situation va diviser davantage les députés nationaux, car certains pensent que le retrait des signatures n'est pas réglementaire, il a violé non seulement la Constitution, mais aussi les règlements d'ordre intérieur de la Chambre basse. D'autres par contre évoquent la jurisprudence et pensent que la motion ne pouvait que tomber, n'ayant pas atteint le nombre de voix requis. C'est donc une victoire de la majorité et un premier test pour le gouvernement.
Merci Mimi Ngumba Mulongo. Maître Jean-Baudouin Maillot, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et porte-parole du parti politique UNC. Vous êtes l'auteur de la motion de censure contre le Premier ministre. Je vous propose à tous que nous commencions par placer un mot sur le déroulement de la plénière d'hier. Ensuite, nous allons exploiter le fond de la motion de censure. Honorable Maillot, on a senti une énorme déception lorsque vous avez pris la parole hier pendant la plénière. Vous êtes-vous senti trahi par le retrait des signatures des 42 de vos collègues?
Pas tellement, parce que j'étais prévenu, je le savais. Le week-end passé, nos amis de la majorité, et c'est leur droit, l'ont occupé à tenir des réunions à ce sujet. Il y avait des collègues signataires de la motion qui m'appelaient, tantôt pour me dire « Non, moi on m'a appelé pour me dire de retirer, je ne veux pas retirer, je veux maintenir ». Mais je comprends que la pression était énorme, la discipline du groupe... Et ils ont retiré. Maintenant, il faut se poser la question de savoir si c'est régulier. Moi, je dis que non, comme je l'ai dit hier. Vous savez, la question de la motion constitutionnelle, je m'excuse, la question de la motion de censure, voulais-je dire, est une question constitutionnelle. Elle est une matière prévue par la Constitution. Et la Constitution, c'est du droit public, de stricte application. D'ailleurs, la Constitution elle-même confère la compétence de son interprétation à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est la Cour de cassation qui fait office de la Cour constitutionnelle parce qu'elle n'est pas encore installée. Alors, la Constitution dit que lorsque vous avez 125 signatures, c'est-à-dire le quart de membres de l'Assemblée nationale, vous déposez et le bureau, 48 heures après, appelle le Premier ministre pour organiser les débats et ensuite le vote. La Constitution n'a pas dit, quand vous lisez la Constitution, vous verrez qu'il y a des dispositions pour lesquelles la Constitution a laissé la place à une loi organique pour la compléter. Ici, la Constitution n'a pas laissé de place. La Constitution n'a pas dit que elle sera complétée par une loi ou par le règlement intérieur.
Et donc, la procédure qui a été appliquée hier pour vous n'est pas réglementaire.
Je persiste, mais en même temps, je m'incline devant la position de la plénière. Elle est souveraine, je suis membre de la plénière, je m'incline, mais cela ne m'empêche pas quand même de critiquer. Ça relève de ma liberté d'opinion.
Alors certaines sources affirment qu'en réalité la majorité vous a piégé en vous accordant ces signatures puis en les retirant. Quelle est votre réaction?
Je ne pense pas. Il ne faut même pas parler de la majorité. Ce sont des collègues qui ont signé. La motion est signée par les députés. Elle n'est pas signée par l'opposition ou la majorité. C'est des collègues qui ont signé en âme et conscience, mais je vous ai dit que ils ont reçu des pressions, il y a des problèmes de discipline de parti, de ceci, de cela, en oubliant que le mandat du député est non impératif. Ils ont retiré, mais ces retraits-là, je persiste et signe que il est irrégulier.
Il y aurait des présomptions de corruption, on l'a suivi tous. Certains députés ont évoqué que d'autres avaient été corrompus. L'argent a-t-il circulé honorablement?
Non, je ne peux pas l'affirmer, j'en ai aucune preuve. Je suis responsable, je ne peux pas le dire. J'ai pas de preuves par rapport à ça. Ce que je sais est qu'il y a eu des réunions et qu'il y a eu un
des
problème
pressions
de discipline
des
groupes, des pressions. Et les amis ont retiré, mais je ne dis pas qu'ils ont été corrompus, non.
Voilà, on donne également 3 minutes à l'honorable Nzekouye pour avant que l'on passe ce point. Honorable François Nzekouye, vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du parti politique PPRD. Honorable, c'est quand même drôle, pour ne pas dire ridicule, que certains députés, nous l'avons tous suivi, affirment avoir signé par inadvertance, d'autres disent même n'avoir pas lu la motion.
Oui, je dois d'abord saluer l'initiative de notre collègue l'honorable Mayo, parce que c'est un exercice constitutionnel. La Constitution le prévoit. Quand on n'est pas d'accord avec la façon de gérer d'un gouvernement, on peut initier une motion de censure. Mais là où son point de vue n'est pas le même que le mien, c'est qu'il s'arroge le droit d'être l'initiateur de cette motion. Parce qu'en fait, la motion départ à la Constitution est une œuvre collective de 125 personnes. Et donc, avant de la déposer, l'honorable Mayo aurait dû convoquer une assemblée générale des signataires pour leur dire ou se mettre d'accord que le moment est arrivé pour déposer la motion, ce qui n'a pas été fait. Et s'il avait fait à ce moment-là, il aurait pu se rendre compte qu'il n'avait plus 125, en tout cas plus de 125, parce qu'il en avait 137 et un 138e à signer même en retard. Donc, c'est dire que l'honorable Mayo, s'il avait respecté le droit de ses collègues qui sont copropriétaires de cette motion, il n'en serait pas arrivé au moment de les déposer parce que il allait se rendre compte à ce moment-là qu'il n'avait pas les signatures voulues.
Donc il y a eu un problème de procédure
à son niveau. D'autre part, nous saluons la façon dont le président de l'Assemblée nationale a conduit les débats hier. Parce que il y a eu débat dans le sens que certains disaient que les bureaux devaient constater et informer la plénière. Vous imaginez que Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, informe par un communiqué que le nombre de signatures n'était pas atteint. Au moment où tout le monde savait qu'il y avait 137 signatures, on allait tout de suite l'accuser d'opacité. Et donc, c'était tout à fait normal que les constats de ces levées de signatures se fassent en pleine plénière et que nous, plénières qui sommes souverains, en tirions toutes les conséquences qui s'imposaient par rapport à cela. Donc, nous estimons que c'était un acte tout à fait normal. Alors, qu'il y ait des gens qui aient levé des signatures pour telle ou telle autre raison, cela n'engage que eux. Il faudrait les rencontrer pour leur demander quelles ont été leurs motivations. Mais nous retenons de toutes les façons
signé
que la plupart...
Signé par inadvertance, signé sans avoir lu la motion.
Ce que je viens de vous dire, il revient.
C'est quand même
déplorable. Je ne peux pas répondre à la place d'un collègue. J'ai beaucoup de respect pour tous mes collègues, de sorte qu'il leur revient à eux
de se justifier par rapport aux actes individuels qu'ils ont posés. Mais de toutes les façons, comme l'honorable Mayo l'a reconnu, cette motion ne pouvait pas passer pour une raison qui n'est pas simplement une raison de clivage. C'était une raison fondamentale. Nous sommes une majorité et nous avons désigné notre gouvernement et il nous revient à nous de les défaire. Autrement, le président de la République constaterait qu'il n'y a plus de majorité et avait le droit de dissoudre l'Assemblée nationale pour se faire une nouvelle majorité. Et donc, nous n'avions pas à courir ces risques inutilement et nous estimons que si les accusations de notre collègue Mayo sont fondées, nous pourrons en tirer les conséquences.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. D'abord, un mot sur le déroulement de la plénière hier.
Bien, merci pour la question. Il y a des constats qu'on peut faire sur le déroulement de la plénière d'hier. Il y a d'abord un manque d'une culture d'homme d'État. Ce n'est pas normal qu'un député national puisse signer une motion sans la lire. Je crois que c'est navrant. Ça, c'est la première chose.
Surtout par inadvertance.
Surtout par inadvertance. Donc, toutes ces raisons ne sont pas vraiment valables. Et c'est peut-être ne pas prendre avec tremblement et responsabilité le rôle de représentation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un problème de culture démocratique. Ce n'est pas correct que dans une démocratie naissante, là où on doit mettre l'accent sur des valeurs cardinales démocratiques, qu'on puisse signer et puis on retire la signature par la suite. Je crois que ce sont des choses qui démontrent assez suffisamment qu'il y a une sorte de carence, n'est-ce pas? Je veux dire qu'il y a une carence, n'est-ce pas, du sens de responsabilité dans la manière d'exercer les responsabilités publiques. Et ça, c'est ça la maladie qui pèse sur l'homme politique congolais aujourd'hui, c'est de ne pas être responsable. Donc l'acte, l'acte résultant de la responsabilité, et ça c'est une carence notoire. Et je crois que la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui, celle qui a amené le député Mayo à introduire sa motion, et la conséquence démontre clairement, n'est-ce pas, cette carence de cette culture démocratique, cette carence, n'est-ce pas, du manque de responsabilité notoire de ceux qui sont censés représenter la nation tout entière. J'espère que c'est une maladie profonde qu'il faut révolutionner avant peut-être de prétendre mettre le pays sous les rails.
Alors cette carence démocratique, Joseph Kongolo, ne serait-elle pas attribuable au balbutiement de la jeune démocratie congolaise qui est appelée à s'améliorer d'ici demain?
Non, c'est plutôt au manque de fonctionnement des piliers principaux de la démocratie. Ces députés doivent premièrement être encadrés par les partis politiques, parce que les partis politiques ont pour rôle premièrement l'encadrement des élus, la formation et l'information. Et très malheureusement, les partis politiques n'encadrent pas leurs élus. Ils ne leur donnent pas, n'est-ce pas, les éléments, n'est-ce pas, élémentaires de la culture démocratique ou de la culture d'un parlementaire. Et ça, nous le vivons aujourd'hui. Et en plus de ça, l'institution parlement doit aussi arriver à compléter cette formation par des formations à l'entrée, n'est-ce pas, d'une législature. Je crois qu'il y a des formations qui doivent être organisées à l'endroit des députés, pour leur imprégner la culture parlementaire.
Joseph Kongolo, certains observateurs également ont fustigé le fait que la virulence ou la passion qui a animé ce débat a frisé pratiquement l'injure, l'insulte. On n'a pas senti un certain respect entre les élus du peuple.
Je viens de le dire tout à l'heure, dans la culture démocratique, il y a des injures, mais des injures qui sont indirectes. Vous savez, Le président, il y a un député, un président d'un parti français qui disait tout simplement à Chirac que si on fait la course entre lui et moi, je crois que c'est moi qui vais arriver le premier. Une manière de dire que c'est là inapte, moi je suis bon. Vous voyez, il y a une manière polie, n'est-ce pas, de dire quelque chose à quelqu'un, et c'est pas d'une manière ouverte, et je crois que ça diminue un peu l'importance de l'institution parlement. Je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut revenir régulièrement dans les formations de mise à niveau.
Nous le disions tout à l'heure, la motion de censure contre le gouvernement Matata Ponyo a été rejetée à la plénière d'hier à l'Assemblée nationale. Innocent Olinga, vous avez parcouru cette motion initiée par le député UNC Jean-Baudouin Mayo Mambeke. Que reproche-t-on exactement à Augustin Matata Ponyo?
Deux griefs majeurs pesaient sur Matata Ponyo dans cette motion de censure. Primo, les violations répétées de la Constitution et des lois de la République. Et secundo, la mégestion et l'impunité. S'agissant des violations de la Constitution et des lois du pays, Matata Ponyo est reproché d'immixtion dans les affaires de la justice, bafouant ainsi l'indépendance de celle-ci. Il y a aussi les lois budgétaires qui sont violées selon l'accusation des députés. Ici, on reproche à Matata Ponyo la rectification et les réaménagements du budget sans l'aval de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas tout. Dans les violations des lois, Matata est accusé de tripatouiller les attributions des services publics, allusion faite au BCECO, Bureau central de coordination, à qui le Premier ministre donne les attributions de la RMP, Autorité de régulation des marchés publics, et de la DGMP, Direction générale des marchés publics. Matata Ponyo est aussi accusé de tuer la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances au profit des audits privés. Quant au deuxième grief lié à la mégestion et l'impunité, les députés en veulent à Matata Ponyo pour plus de 80 millions de dollars américains soutirés à la Banque centrale sans trace au crédit du compte général du Trésor. Aussi, les députés estiment que la stabilité du cadre macroéconomique dont Matata se vante tant n'a pas d'effet positif dans le vécu du Congolais. Enfin, Matata devrait se justifier sur un présumé enrichissement illicite.
Merci Innocent Olenga, honorable Jean-Baudouin Maillot. Revenons dans les détails. Comme grief, vous commencez par parler des violations répétées de la Constitution et des lois de la République. Qu'est-ce qu'il en est pour les auditeurs qui ne connaissaient pas ces dossiers, qui n'ont pas tous suivi les débats à la télévision?
Merci beaucoup, mais avant de répondre directement à votre question, permettez-moi de rencontrer quelque peu ce qui a été dit auparavant.
Très rapidement.
On me nie à moi la qualité d'initiateur de la motion, mais hier, il fallait prendre l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, la motion de censure initiée. C'est l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et je crois que ça n'a pas de sens. On me dit que j'aurais dû tenir la réunion pour me rendre compte de ce qui avait retiré. Il n'allait même pas venir. Il m'appelait au téléphone. C'était un coup monté, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas prendre prétexte de ce genre de situation. On dit que la majorité ne pouvait pas faire tomber le Premier ministre parce que il y aurait crise, le président de la République allait dissoudre le Parlement. Non. La majorité peut seule démettre son gouvernement par une motion de censure. La majorité peut aussi, avec l'opposition, initier une motion de censure. C'est pas interdit. Tout comme aussi l'opposition peut initier la motion de censure et la majorité la rejoindre. Je crois que le problème, c'est le problème des cultures
politiques. Alors revenons au fond de votre motion.
En revenant au fond de la motion, écoutez, le Premier ministre a signé une lettre et l'a adressée à sa ministre de la Justice. La presse en avait fait état. Africa News pour ne pas la citer, cette presse. Il y a un monsieur qui a été directeur technique au Grand Hôtel de Kinshasa. Ce monsieur a été licencié. Il va en justice. Il gagne le procès au premier degré. Il voit un appel. Il gagne le procès au deuxième degré. Tout juriste sait que l'arrêt de la cour d'appel rendu au second degré est exécutoire. Le monsieur va faire exécuter sa décision, son jugement, son arrêt. Le Premier ministre intervient pour demander à sa ministre de la Justice d'arrêter l'exécution de cet arrêt et même de sanctionner les auteurs. Mais quand vous lisez la Constitution en son article 151, cela est interdit. Le gouvernement ne peut pas s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Comment qualifier ce comportement?
Alors vous parlez aussi de la violation des lois budgétaires, tripatouillage des attributions légales des services publics de l'État.
Bien sûr. Le Premier ministre Matata Ponyo ne respecte pas la signature du président de la République, Joseph Kabila.
Comment ça?
C'est le président Joseph Kabila qui promulgue la Constitution, comme toutes les autres lois. Et quand une loi est promulguée par le chef de l'État, vous n'en avez que le pouvoir de l'exécuter. Vous ne pouvez pas la contourner. Mais la loi financière du pays prévoit que lorsque le Premier ministre est en difficulté, lorsque il n'est plus capable d'atteindre les performances lui assignées par le budget, il rentre au Parlement pour solliciter une loi rectificative. Mais il ne peut pas de lui-même commencer à modifier le budget. Nous avons donné l'exemple. Dans le budget de 2012, l'Assemblée a donné 18 000 francs congolais d'augmentation pour les fonctionnaires. Ça n'a jamais été payé. Ça n'a jamais été payé. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas lui demander les comptes. Pourquoi il n'a pas payé? Alors que c'est le budget qu'il avait prévu. Si vous voyez le même budget, il y a des dépassements dans d'autres postes. Comme chez lui, à la primature. Toujours des dépassements.
Alors, honorable, en parlant du budget, il y a Trissa Salakiakou qui nous écrit de Beijing en Chine qui dit « Il est important de retenir une chose, je ne sais pas pourquoi les députés en veulent au Premier ministre Matata, juste parce qu'il n'a pas voulu augmenter leurs émoluments à 13 000. Non, soyons sérieux, c'est parmi les rares Premiers ministres qui essaient de bien faire son travail. Laissons-lui le temps de travailler et juger-les par rapport à ses actes. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de priorités que les députés doivent suivre et non le départ du Premier ministre, honorable. » Maillot, brièvement.
Écoutez, vous pouvez lire la motion. J'en ai entendu le résumé tout à l'heure. Il n'y a pas de problème des émoluments des députés là-dedans. Il n'y en a pas. Deuxième chose,
quand il doit une respecter motion le budget, de censure. Quand le Premier ministre doit respecter l'exécution du budget, par delà, il y a les émoluments.
Moi, je ne suis pas membre de la Commission économique et financière. Je ne sais même pas combien a été prévu pour les députés. Là n'est pas la question. Je crois que c'est l'erreur que lui, il a commise. De diaboliser les députés à ce sujet-là. On ne gère pas un État comme ça. Ça, je le regrette. Par contre, par rapport à ce que l'ami a dit, qu'il faut le laisser gérer les... Non, mais les 20 millions de dollars pour réfectionner son bureau et sa résidence officielle. Vous savez, l'immeuble qui se trouve au croisement Batété là, et le boulevard du 30 juin, le nouvel immeuble là, a coûté 10 millions de dollars. Donc, avec la réfection de son bureau et de sa résidence, on pouvait construire des immeubles de ce genre. On pouvait construire combien d'écoles? On pouvait construire combien de camps militaires? Les dire, c'est réclamer les émoluments des députés. Soyons responsables.
Honorable François Zekouye, qu'est-ce que vous répondez à ces griefs?
Oui, d'abord, par rapport à la lettre que le Premier ministre a écrit à sa ministre de la Justice, c'est une question qui relève des interactions quotidiennes d'un gouvernement.
Et non d'une interférence.
Non, pas d'une interférence. Parce que les premiers ministres savent très bien que pour sanctionner un magistrat, ce n'est pas la ministre de la Justice qui peut le faire. Et du reste, d'ailleurs, au niveau de la plénière de mercredi, on a reconnu que l'indépendance de la justice nuit parfois à certains actes de magistrats, très particulièrement sur les mal jugés. Et donc, les ministres peuvent, à ce moment-là, travailler en interaction avec l'inspection générale des services judiciaires pour pouvoir réclamer, parce que le gouvernement est aussi justiciable, au même titre que tout autre justiciable. Quand il y a quelque chose pour lequel il estime qu'il est lésé, il peut se plaindre. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils l'ont fait. Il n'y a vraiment pas de raison d'alarmer l'opinion. La question du budget. Les collègues savent que nous avons voté le budget 2012 vers la fin de l'année. Et nous étions dans une situation particulièrement critique de la guerre. Et nous sommes rentrés en janvier. En janvier, nous avons voté des crédits provisoires. Et lui sait aussi que pendant qu'on a des crédits provisoires, on ne peut pas faire des augmentations. On ne fait que la réplique de ce qui était avant. Et le gouvernement s'est engagé, et dans le budget promulgué pour 2013, le montant qui était initialement prévu, c'est 17 000 au lieu de 18 000, comme l'a dit le collègue Maillot. Et dans les plans de décaissement ou les salaires qui ont été envoyés pour le mois d'avril, il est prévu que 10 000 soient payés à ce mois d'avril et 7 000 complémentaires seront payés au mois de juillet. C'était prévu dans notre budget que nous avons voté. Donc il n'y a pas de raison de s'imaginer qu'encore une fois, que le gouvernement a refusé de payer les droits qui sont dus aux fonctionnaires de l'État. Quand on dit qu'on a fait un décaissement de 80 milliards de dollars, plutôt 80 milliards de francs congolais, là encore, c'est une mauvaise lecture, parce que il y a une lettre même que le gouvernement nous a adressée à l'Assemblée nationale par le ministre du budget pour nous dire tout simplement qu'il y avait une double imputation. C'est-à-dire que c'est un montant qui était retenu en recette courante et en recette exceptionnelle.
Et le gouvernement a fait les rectificatifs et nous a envoyé à l'Assemblée nationale. Donc, la plupart des allégations qui sont faites dans ces documents sont les faits des manques de vérification de la part de notre collègue. Si c'était référé à l'ECOFIN, on aurait pu lui dire clairement qu'il y a une double imputation qui a été faite par rapport à cette question. Donc, nous estimons sincèrement que, malheureusement, une émission comme celle-ci n'est pas la plus appropriée pour aller dans les moindres détails sur toutes les reproches que le collègue fait, mais nous disons sincèrement que c'est un document qui est vide dans son contenu.
Kadima, cet internaute dit, ceci nous montre que les députés de notre Parlement ne travaillent pas pour l'intérêt de la population, car comment expliquer qu'au lieu de censurer ce gouvernement qui, depuis son avènement, ne fait que parler des indices économiques très bons, alors que dans nos assiettes, les repas vont en diminuant, honorable Nzekouye. Le cadre macroéconomique, sa maîtrise ne produit pas encore des effets.
Oui, je comprends cette inquiétude, mais les gouvernements ne tournent pas les pouces. Vous savez quand même qu'en 2012, le gouvernement a sorti, je crois, 23 millions de dollars pour les programmes agricoles. Cette année encore, je crois, on a sorti plus de 35 millions de dollars pour la campagne agricole. C'est un effort dans le sens d'accroître la production interne. Parce que les collègues se plaignent aussi sur les prix des chinchards. Il a dit que ça arrive à Matadi, non dédouanés, à 15 000 francs congolais, les cartons. Ce qui n'est pas vrai. Les cartons non dédouanés arrivés au port de Matadi est à 40 500 dollars. Mais il y a un problème, un réel problème qu'il a soulevé avec ça, c'est que en fait, il y a une chaîne. Les entreprises qui amènent les chinchards sont eux-mêmes les transporteurs, sont eux-mêmes les dépositaires, sont eux-mêmes les propriétaires des chambres froides et ils ont une société écran à l'étranger. Et donc cette question, le gouvernement a institué une commission d'enquête pour pouvoir régler cette question. Mais l'idéal pour lequel d'ailleurs le gouvernement s'est investi, c'est d'accroître la production interne, ce qui permettrait effectivement de réduire les importations et de réduire ces risques effectivement de voir se renchérir les produits de consommation courante. Il a parlé des problèmes des transports en commun, où il critique le fait que on a pris des décisions pour que on ne puisse plus importer des véhicules vieux et que l'esprit des morts continue à fonctionner, mais le gouvernement prend aussi des mesures, pas à court terme, mais à moyen terme. Il y a 60 bus qui sont déjà là, sur les 300 que le gouvernement avait commandé. Il y en a 90 qui sont au port de Matadi, et les restes sur les premières commandes arrivent à fin avril. Et d'ici le mois de juin, les bus seront là. Il y a un contrat qui a été signé par la RATP, une société française de transport en commun, et une société locale, pour pouvoir arriver à l'idéal d'avoir 500 bus pour la fin de cette année, mais pour régler ce problème de transport à Kinshasa, il faut arriver jusqu'à 2000 bus. Mais le travail s'est fait au fur et à mesure. Dieu n'a pas créé le monde en un jour. Nous non plus, nous n'allons pas régler le problème en un jour.
Joseph Kongolo, violation répétée de la Constitution et des lois de la République, tripatouillage des attributions légales des services publics de l'État, mauvaise gestion et impunité reprochée au Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Quelle est votre analyse?
Bon, ce qui est vrai, c'est que ce sont des griefs qui se renouvellent. Chaque gouvernement qui arrive, il revient sur les mêmes griefs. C'est au moins une réalité. Ça, c'est une réalité. Peut-être le problème peut-être peut se poser, à mon avis, peut-être un problème d'opportunité, parce que les uns considèrent que c'était pas opportun de déposer. Mais ce qui est vrai, c'est que les faits reprochés au gouvernement, ils ne sont pas seulement caractéristique de la gestion de Matata Ponyo, je crois que même le gouvernement précédent a trempé dans les mêmes griefs. Et effectivement, notre incapacité, c'est de pouvoir renverser la vapeur, renverser le système de gouvernance pour pouvoir mettre l'homme au centre de nos actions. Ça, c'est une réalité. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'il y a cet État, notre État congolais, qui est l'État post-conflit, comme nos amis de la majorité veulent le dire, qui sont venus de loin, c'est un État qui a perdu la capacité de protéger. C'est un État qui a perdu la capacité de se rapprocher, n'est-ce pas, des démunis, c'est-à-dire et c'est ce désespoir, n'est-ce pas, de la population qui est à la base de toutes ces contestations, qui est à la base de ce que nous disons, ce que nous appelons aujourd'hui les sans emploi, les sans salaire, les sans logis. Et ce sont ces gens aujourd'hui qui contestent l'autorité, n'est-ce pas? nous avons beaucoup de cas qui se sont répétés déjà sur l'ensemble de la République. Vous avez dernièrement les Katakatanga. On vous dira que ce sont des gens qui ont été abandonnés, c'est-à-dire qui n'ont pas été insérés dans le circuit normal, n'est-ce pas, d'emploi ou en autre chose. Je crois que l'État a perdu sa capacité de protection, de protéger la communauté nationale. L'État a perdu aussi son caractère social, de se rapprocher, n'est-ce pas, à côté des démunis. Et tous ces temps, toutes ces réproches, tous ces griefs-là, ce sont des éléments constitutifs, n'est-ce pas, de toute cette incapacité, n'est-ce pas, de l'État à se relever et à aller de l'avant en mettant, n'est-ce pas, l'homme au centre de son action.
Joseph Kongolo, ce sont des griefs qui se renouvellent. Dans le contexte actuel de la RDC, ne faudrait-il pas, comme le dit l'honorable Nzekouye, y aller progressivement, aller mollo-mollo, tout étant presque prioritaire, comme disent certains analystes?
On y va progressivement quand c'est possible. Et quand c'est possible d'arrêter, n'est-ce pas, d'arrêter par le changement des comportements, par des lois précises, par l'application des lois peut-être qui ont déjà été votées, je crois qu'on peut y aller une fois pour toutes. Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a un besoin d'une rupture. Il y a un besoin d'une rupture dans la gestion des responsabilités publiques. Je crois que c'est un élément essentiel aujourd'hui. Nous n'avons pas peut-être à nous étendre longtemps sur les comportements publics des responsables. Nous n'avons pas aussi à aller un peu en profondeur sur l'irresponsabilité aussi des masses qui subissent, n'est-ce pas, la mégestion, qui subissent, n'est-ce pas, toutes ces couacs, n'est-ce pas, de la part de ceux qui nous gèrent. Mais au moins, je considère qu'il y a un problème de rupture dans la manière de gérer, de révolutionner, n'est-ce pas, notre manière de gérer notre responsabilité. Et ça, c'est un élément essentiel.
André Kayaya Katamba dit il est difficile dans un pays où la corruption bat record que les députés puissent être loyaux de leur point de vue, surtout avec le système de mots d'ordre. Rien à espérer de meilleur de cette législature. Rodrigue Makita, le gouvernement congolais aura du mal à bien travailler sachant qu'il n'a pas de contrôleur. C'est une honte pour la démocratie au Congo. Tant que l'Assemblée nationale restera soumise à la majorité, rien de bon ne sortira de là. Mouroula Banyewe et de Bukavu Sud Kivu, pour moi, ceci traduit la pression que les députés de la majorité ont subie et ce qui montre qu'ils sont plus dépendants de leur parti politique. Dans ce cas, ils ne sont plus au service de la population qui les avait élus. Joseph Kongolo, dans la motion, il est également fait état du fait que le Premier ministre, qu'on reproche au Premier ministre Matata Ponyo un enrichissement illicite. En ce moment où on parle en France, au Sénégal, on parle de la moralisation de la vie public, ne faudrait-il pas y arriver un jour en RDC?
Il faut le dire sincèrement que dans notre pays aujourd'hui, personne dans le régime actuel ne peut avoir le courage aujourd'hui de s'arrêter, n'est-ce pas, et de tenter de moraliser le système, tenter de moraliser, n'est-ce pas, la gestion publique des choses. Parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des dossiers latents où chacun, à quelque niveau que ce soit, a dû tremper dans la mi-gestion, et il devient difficile. C'est pourquoi j'ai parlé des ruptures successives. Nous sommes dans un système où il faut absolument des ruptures successives, des ruptures au niveau des gérants, n'est-ce pas, des gouvernants, la rupture au niveau des méthodes de travail, et en ce moment-là, peut-être on peut partir d'un bon pied pour pouvoir généraliser, n'est-ce pas, ce travail de moralisation. Ça ne doit pas être un travail destiné aux autres, et non pas à soi-même. C'est pas un travail qui sera destiné à ceux de l'opposition et non pas à ceux de la majorité. Or, aujourd'hui, les divisions, les fractures, n'est-ce pas, qui se manifestent, démontrent clairement que personne, aujourd'hui, n'est prêt, n'est-ce pas, à pouvoir amorcer ce travail de moralisation, simplement parce que ça risque de clabousser tout le monde.
J'ai par exemple parcouru, Joseph Kongolo, la page Facebook du gouvernement provincial de la province orientale. On peut voir des photos sur lesquelles les membres de cette institution ont fait leur déclaration des biens le 29 mars dernier.
Oui, mais on peut faire des déclarations. Est-ce que on a vérifié ces déclarations? Quelle est l'autorité qui doit, à la fin du mandat, ou à
vérifier.
Vérifier cela? Et quels sont les pouvoirs que cette institution ou cette organisation a pour pouvoir mener des actions en justice, par exemple? Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation qui restent sans réponse à ce niveau. Mais je crois, franchement, que l'impulsion doit venir de la tête. Quand nous avons un leadership éclairé, il doit donner l'impulsion dans la gestion publique. Et en ce moment-là, Je crois que si lui-même s'implique résolument, en ce moment-là, nous avons la possibilité d'entamer véritablement la moralisation de la gestion publique.
Voilà, je signale qu'il nous reste moins de 10 minutes pour terminer cette émission. Honorable Maillot, on l'a dit, ce n'est pas dans une émission comme ça qu'on peut vider le contenu de votre motion, mais c'est juste donner les grandes lignes pour permettre à la population qui est en train de nous suivre de comprendre le débat qui est en train de se passer en ce moment au pays. Je lis un extrait de votre motion. Vous dites, je saisis cette occasion, vous vous adressez au Premier ministre, pour réaffirmer que vous ne contrôlez rien. C'est quand même une déclaration très forte.
Oui, je pèse bien mes mots. D'ailleurs, laissez-moi d'abord dire à mon ami Nzekouye, mais si c'était aussi simple que ça, aussi facile que ça, pourquoi a-t-on empêché les débats? Il fallait laisser alors le Premier ministre nous répondre et donner ces éléments-là. Pourquoi a-t-il fui les débats? Parce que je crois que le grand perdant d'hier, c'était lui. Il a fui les débats. Alors, les 80 millions de dollars, mon cher ami, nous avons des éléments. 2 millions de dollars à la DGRAD pour les frais de fonctionnement. 11 millions dans des comptes privés. Il y a un compte aux États-Unis d'Amérique, à New York. Il y a des gens qui ont des éléments. On peut retracer cet argent-là dont a parlé la Cour des comptes. Cet argent, les 80 millions de dollars, c'est par rapport à la vente des actions de l'État dans ces télécommunications. Et c'est l'argent, c'est le prix d'achat par Orange. C'est ça. On a des documents, on a retracé tout ça. Ils savent pourquoi ils ont évité les débats hier. Il fallait qu'on en débatte. Hier, on a fui les débats. Maintenant, par rapport à la question que vous me contrôlez, mon cher ami, vous savez que la loi sur le portefeuille de l'État, les entreprises publiques du portefeuille de l'État, dit que les mandataires actifs seuls touchent une rémunération mensuelle, tandis que les mandataires passifs eux ont droit au jeton de présence à chaque fois qu'ils assistent aux réunions. Mais tous, que ce soit les passifs, que ce soit les actifs, ils ont chacun une rémunération et en plus des jetons de présence. Et lorsque vous prenez une société comme l'ONATRA, 8 réunions en 4 mois. De conseil d'administration. Mais le Premier ministre contrôle quoi? Il est où?
Voilà, la motion de censure initiée contre le gouvernement Matata Ponyo n'est pas passée suite au retrait de 42 signatures des députés. Mais que pense la population congolaise à ce sujet? Radio Okapi a promené son micro ce matin dans quelques villes du pays. Suivez.
Je suis précisément à Kinshasa. Il y a l'argent qui a marché là-bas. Et vous appelez ça ensemble?
Je suis à Lubumbashi. Moi, je dis, c'est tout à fait normal ce qu'ils ont fait. Un retrait de leur signature. Ils l'ont fait d'une manière démocratique.
J'habite Goma. C'était quand même humiliant hier. Hein. Nous sommes le patron de ces gouvernements. Ils doivent nous rendre compte.
Je suis à Bukavu. Dans une démocratie, c'est normal. Mais c'est vraiment dommage. Nous aurions aimé que le Premier ministre puisse justifier par rapport au brief qui lui était reproché.
Je suis à Kisangani. C'était un bel exercice et il faut saluer cela, mais il faudra un peu de maturité politique aussi.
Nous sommes ici en Boujmaï. Ici, nous voyons que les députés n'ont fait que dicter un mot d'ordre de la présidence, parce que c'est la famille AMP.
Je suis de Mbandaka. 41 ont retiré leur signature. Ça, vraiment, je ne sais pas quel jour le peuple congolais donnera encore confiance à cette Assemblée nationale.
Honorable Nzekouye, il y a Sissi Selenge Mukonga qui dit « Moi, je ne vois pas l'importance des députés dans notre pays. » Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée ne risque-t-il pas de creuser, d'agrandir le fossé qu'il y a déjà entre les députés et, là-bas, et leur base?
Je ne crois pas. Je crois que les peuples congolais doivent aussi, avec ces exercices, apprendre ce que c'est la démocratie. Une motion de censure, ce n'est pas une question d'explication. C'est une action entamée pour faire tomber un gouvernement. Et donc, si l'honorable Maillot avait besoin des explications du Premier ministre, il avait beaucoup d'autres mécanismes à utiliser pour pouvoir entendre le Premier ministre par rapport à cela. Et donc, nous estimons que, politiquement, la majorité s'est comportée comme il fallait. L'opposition aussi a fait son travail, parce que son rôle, c'est bousculer la majorité pour que, par les yeux de l'alternance, il nous remplace. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, en allant dans les questions de fond, est-ce que le gouvernement travaille ou ne travaille pas? C'est là la question. Quand le gouvernement vous dit que cette année, on va construire 400 écoles,
sur le territoire de la République. C'est vérifiable. On va voir d'ici la fin de l'année. Demandez-nous si nous n'avons pas construit ces 400 écoles. Quand le gouvernement vous dit qu'il a dépensé 20 milliards de francs congolais pour l'achat des équipements pour 106 hôpitaux et 330 centres de santé à travers la République et ces matériels arrivent les mois prochains, il faut le vérifier. Ce sont des données. Quand le gouvernement dit qu'il va augmenter de 10 000 francs les salaires des agents et fonctionnaires de l'État le mois d'avril et qu'il va compléter les 7 000 à partir du mois de juillet, c'est vérifiable. Il avait déjà ajouté 10 000 francs pour les militaires et policiers et il va en ajouter 7 000 pour eux.
Et donc, par rapport à l'enrichissement illicite évoqué par l'honorable Maillot,
très brièvement, il reste moins de 4 minutes. Il essaie aussi, tous les ministres, y compris le Premier ministre, font la déclaration de leurs biens à l'entrée de leurs fonctions.
Mais quand ils sortent, personne ne vérifie ça.
Non, il faut qu'il y ait, à ce moment-là, effectivement, un collègue se saisit de cette question pour vérifier s'ils n'ont pas effectivement déclaré l'écart qui s'est creusé entre les revenus avant d'être ministre et au moment de leur sortie. Donc ce sont les exercices démocratiques auxquels nous devons nous habituer. Tout le monde a la possibilité d'avoir de l'argent, mais de quelle manière l'a-t-on eu? Là, c'est une question. Et s'il y a des preuves, effectivement, qu'il y a eu des vols d'argent, il est un avocat, il sait que tout le monde peut se plaindre d'un acte qui a été posé par un autre Congolais. Donc s'il ne l'a pas fait... Merci. Il est libre de se taire, mais s'il estime qu'il y a des faits graves, il peut aller en justice et nous allons le soutenir.
Joseph Kongolo, il y a Justin Kabanza qui dit « Matata Ponyo n'a qu'à corriger ses erreurs pour qu'il demeure à ses fonctions, même s'il est membre d'un parti de la majorité ».
Évidemment, je crois que avec le couac qui s'est produit à l'Assemblée nationale, je crois que c'est une leçon supplémentaire au Premier ministre de pouvoir rectifier son tir et d'améliorer la gouvernance socio-économique, parce que c'est là qu'il y a des véritables problèmes. C'est que vous avez parlé tout à l'heure du panier de la ménagère. Franchement, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et le Premier ministre devra saisir de cette occasion pour pouvoir réorienter, n'est-ce pas, son action gouvernementale et l'orienter beaucoup plus vers le social et dans la transparence dans la gestion, n'est-ce pas, des finances publiques. Je crois que c'est ça le nerf même. Vous n'allez pas vous développer si vous n'arrivez pas à bien gérer. S'il n'y a pas une bonne gouvernance, il n'y a pas un développement, il n'y a pas modernisation, il n'y a pas tout ce qu'on est en train de chanter à l'oreille. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est de mettre en pratique, n'est-ce pas, l'orthodoxie dans la gestion de la chose publique. Et de cette manière, on pourra peut-être espérer mieux.
Alors, on conclut déjà, Joseph Kongolo. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir pour vous comme mérite de cette motion?
Bon, écoutez, c'est un exercice normal de l'Assemblée nationale. L'opposition a fait son travail, on l'a dit tout à l'heure. Je pense que le député national devra aujourd'hui assumer sa responsabilité en tant que représentant de la population. Quand il prend un acte, il doit en être responsable et aller jusqu'au bout. Il doit s'assumer. C'est même dans la vie. Et quand on est représentant d'une population et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous retirez parce que vous n'avez pas lu, parce que c'est par inadvertance, je crois que ces raisons-là, ça ne sonne pas mieux, n'est-ce pas, l'oreille de celui qui vous d'un observateur attitré. Je crois franchement qu'il faut révolutionner la manière d'exercer la responsabilité publique. C'est très important. Et que nous leur demandons d'être un peu plus responsables, parce que ceux qui sont derrière eux, ce sont des gens qui sont dans une situation déplorable.
Honorable Maillot, en guise de conclusion, qu'est-ce que les auditeurs et internautes qui vous suivent peuvent retenir?
Ils peuvent retenir le fait que, semblait-il, tel que je viens de l'entendre ici, il y avait des réponses à toutes ces questions, mais que on a évité les débats. Or, la démocratie, c'est les débats. Le président Mandela disait que l'arme la plus redoutable, ce n'est pas la violence, c'est le débat. Et c'est ce qui fait la démocratie. Voilà que on évite les débats ici. Enfin, je dis ceci, nous venons de donner ou de lancer un mauvais signal au monde entier. Le Congolais ne s'en tient pas à sa signature.
Merci.
Ça, c'est un mauvais message.
Merci, honorable Nzekouye. Conclusion.
Conclusion, le peuple congolais doit être fier de sa démocratie. Elle s'est exercée. Le droit de retirer un engagement existe. Et même le pape l'a retiré. Il était pape à vie. Il est démissionnaire aujourd'hui. Et donc, c'est un exercice normal. Et le peuple doit savoir que le gouvernement travaille pour lui. Il y a des évolutions, le travail est encore beaucoup à faire et nous allons de l'avant.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que je recevais maître Jean-Baudouin Maillot, député national de l'opposition et porte-parole du parti politique UNC. Il est l'auteur de la motion de censure contre le premier ministre, honorable François Zécouillé, député national de la majorité présidentielle et cadre du parti politique PPRD, ainsi que Joseph Kongolo, analyste politique. Cette émission est terminée. Vous pouvez la retrouver sur radiocapi.net. Au revoir.